Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Mathilde Ovila.
Le prêtre le plus aimé des Français est décédé ce lundi matin. Il avait 94 ans, fondateur des Compagnons d'Emmaüs, résistant, ancien député. L'abbé Pierre a consacré sa vie aux déshérités. L'Église de France a perdu une de ses grandes figures. La vie de l'abbé Pierre, les réactions en France et ailleurs, les hommages. Nous vous proposons un temps spécial en ouverture de ce magazine pour revenir sur le parcours de ce personnage. Dans cette émission, nous poursuivrons ensuite notre parcours de découverte des autres confessions chrétiennes à l'occasion de la semaine pour l'unité des chrétiens qui se poursuit jusqu'à jeudi. Aujourd'hui, nous essaierons de mieux comprendre les protestants évangéliques. Enfin, nous ferons escale à Nairobi, où se tient actuellement le Forum social mondial. Un des participants à ce forum nous livre son analyse des problèmes rencontrés par l'agriculture en Afrique. C'est à la fin de ce magazine. Restez avec nous.
Nous avions ramassé boulevard Sébastopol, au cœur de Paris, à quelques centaines de mètres du théâtre du Châtelet, nous avions ramassé une vieille femme qui agonisait. On avait cru que c'était un tas de chiffons. Et un de mes compagnons m'avait dit « Père, on s'arrête, il y a là des chiffons à ramasser ». Et nous passions la nuit à aller dans les rues, donner des couvertures et donner à manger à des gens qui étaient sur les trottoirs. Il faisait comme le dernier hiver, il a fait jusqu'à moins 15, moins 18 dans Paris. Et quand nous nous sommes arrêtés près de ce tas de chiffons, c'était une vieille femme. Elle agonisait. Alors que nous l'avons prise et transportée pour aller au commissariat de police, où on savait qu'il y aurait du feu, où il y aurait de la chaleur. Et quand on est arrivé, elle était morte.
Cette voix, celle de l'abbé Pierre, s'est éteinte ce lundi matin à Paris. Celui qui s'était rendu célèbre pour son action en faveur des plus démunis a été admis le 14 janvier dernier à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce à Paris pour une infection pulmonaire à laquelle il a finalement succombé ce lundi matin. L'abbé Pierre, de son vrai nom Henri Grouès, est né le 5 août 1912 à Lyon, est ordonné prêtre le 24 août 1938 et fonde en 1949 les Compagnons d'Emmaüs, avant de lancer le 1er février 1954 son célèbre appel radiodiffusé pour l'insurrection de la bonté au cours du terrible hiver 1954. Depuis lors, intervenant dans la rue, à la télévision ou encore à l'Assemblée nationale en janvier 2006, à 90 ans passé, l'infatigable abbé Pierre n'a jamais abandonné son combat pour les plus indigents. Romilda Ferrotto revient tout de suite sur la figure de ce personnage qui a marqué l'histoire de l'Église au cours des 50 dernières années.
Quoi de plus évangélique que de donner sa vie pour les exclus? Jusqu'au bout, l'abbé Pierre aura agi au nom de l'Évangile et au fond, c'est cela qui compte. L'abbé Pierre avait une parole libre, audacieuse, par moments impertinente, qui a pu mettre la hiérarchie catholique dans l'embarras. Mais sa loyauté vis-à-vis de l'Église ne s'est jamais démentie. Évangélique, l'abbé Pierre l'a été non seulement par ses multiples combats, mais aussi par sa capacité à susciter chez l'autre des élans de générosité. Il avait la charité contagieuse dans une société opulente, laïque, individualiste. Certes, dans l'Église, son souvenir reste troublé par son livre « Mon Dieu, pourquoi ?», par ses prises de position sur le célibat des prêtres, l'ordination des femmes, l'homosexualité. Certains, par ailleurs, n'appréciaient pas la médiatisation de ses combats, car la charité chrétienne, on le sait, se veut discrète. Autre nuage, son amitié publique pour le philosophe négationniste Roger Garaudy. Indigné, le cardinal Lustiger, alors archevêque de Paris, l'avait publiquement désavoué. Volontairement ou involontairement, l'abbé Pierre a plus d'une fois mis les pieds dans le plat, mais il n'a jamais renié les engagements de toute une vie. Aujourd'hui, même ceux qui ne partageaient pas tous ses points de vue rendent hommage à ce géant de la foi, de la miséricorde et de l'humilité. L'abbé Pierre ne s'est jamais trompé de combat, a déclaré quelques heures après sa mort le cardinal Roger Etchegaray, une des plus hautes personnes de la curie romaine. Bien au-delà des particularités religieuses ou philosophiques, a affirmé pour sa part l'archevêque de Bruxelles, il rappelait à chacun son devoir d'humanité. Et pour finir, comment ne pas rappeler, avec saint Jean de la Croix, que c'est sur l'amour que nous serons jugés au soir de la vie.
Les relations de l'abbé Pierre avec l'Église n'ont pas toujours été faciles. Personnage très médiatisé, l'abbé Pierre a suscité la controverse. Et pourtant, avec sa disparition, l'Église de France perd aujourd'hui une de ses grandes figures. La réaction de Mgr Jean-Pierre Ricard, président de la Conférence des évêques de France.
L'abbé Pierre représente, disons, un prophète des temps modernes qui réveille la conscience et qui appelle à l'amour, à la fraternité, à l'engagement. Ce qui fait la personnalité de l'abbé Pierre et peut-être ce qui a permis que sa parole ait tant d'impact, c'est à la fois un cœur, une voix et des mains. C'est un cœur dans la mesure où c'est quelqu'un qui sait porter sur chacun un regard d'amour, un regard qui appelle à retrouver sa propre dignité. C'est pour ça que beaucoup de ces personnes en difficulté se sont senties rejointes, aimées par l'abbé Pierre. L'abbé Pierre était un père, finalement, pour elles. Mais c'est aussi une voix. Il n'a pas craint de dénoncer le mal logement, la pauvreté, les blessures de la vie. Et lui-même a fait appel aux responsables de notre société, mais aussi à la conscience de chacun en disant « Vous ne pouvez pas être tranquille et dire « Ben la misère, il y a une fatalité pour ça ». Il faut aussi que vous engagiez à bâtir une société plus fraternelle. Et en même temps, c'est un homme qui a des mains aussi. C'est-à-dire il n'en reste pas au sentiment, mais il fait. Que ce soit dans un long et long combat pour que des mesures, des lois et aujourd'hui un projet de loi sur le logement puisse voir le jour, mais il est aussi celui qui s'est engagé lui-même et dans la durée. Moi, je crois que c'est un modèle, enfin un modèle parmi d'autres. Je crois qu'il n'y a pas qu'une seule figure de vivre son ministère, mais si ces figures-là n'existaient pas, je crois qu'il y a quelque chose de l'Évangile qui manquerait à notre Église.
L'abbé Pierre, c'est aussi quand même une personne assez libre qui finalement a pris des positions et a tenu des discours qui parfois embarrassaient l'Église. Je pense notamment à son dernier ouvrage où il se prononçait contre le célibat des prêtres.
Moi, je crois que c'est un homme qui dit ce qu'il pense, qui a ses coups de cœur, qui a aussi ses convictions. Il peut se tromper. Je crois que l'abbé Pierre ne s'est jamais présenté comme l'homme infaillible. Il disait ce que pensent un certain nombre de gens. Hein. Donc c'est vrai que sur un certain nombre de positions, on a été obligé de dire des fois notre désaccord. Ces choses-là, malgré tout, ne doivent pas ternir ou complètement obscurcir le témoignage d'homme de cœur qu'il a voulu donner.
Et dans le communiqué de la Conférence des évêques de France pour la mort de l'abbé Pierre, son président, le cardinal Ricard, rappelle une phrase du célèbre abbé, une phrase qui terminait sa lettre à Dieu du 4 octobre 2005. « Père, j'attends depuis si longtemps de vivre dans votre totale présence qui est, je n'en ai jamais douté malgré tout, amour. » L'abbé Pierre avait en effet souvent évoqué lui-même sa propre mort. Il avait notamment déclaré « Pour moi, la mort n'est pas vraiment une séparation, mais une continuation. Ce n'est pas une fin, mais un renouveau. C'est comme sortir de l'ombre pour entrer dans la lumière. » C'est un thème sur lequel il s'est entretenu avec Pierre-Roland Saint-Dizier. Ce journaliste a réalisé un livre d'entretien avec l'abbé Pierre entre mai et décembre 2003 à l'occasion des 50 ans de l'appel de l'hiver 54. Il a rencontré plusieurs fois l'abbé Pierre chez lui à Alfortville.
Concernant sa mort, il m'en a longuement parlé et il l'a présenté comme une rencontre qui était longtemps retardée avec un ami. Et il disait d'ailleurs qu'on ne part pas vers l'inconnu, il y a toujours un ami qui nous attend. Et même si le Christ a pu avoir peur sur la croix, même s'il a eu ce cri de détresse, il a gardé confiance. Il a su remettre son esprit entre ses mains. Et il y a des jours, je crois, où l'abbé Pierre se répétait cela intérieurement.
C'était Pierre Roland Saint-Dizier, auteur d'un livre d'entretien avec l'abbé Pierre, des propos recueillis par Xavier Sartre. Très médiatique, l'abbé Pierre s'en va aussi sous le feu des projecteurs. Dès l'annonce de son décès, de nombreuses personnalités se sont exprimées. Le président de la République française s'est dit bouleversé. Tour d'horizon des réactions à Paris, Antoine Pasquier.
Sa mort, ça me fait bien plus mal que la morsure du froid le matin. C'est un sans-abri qui témoigne, l'un de ses exclus si chers à l'abbé Pierre, l'un de ses démunis à qui il a consacré sa vie, l'un de ceux dont il était le porte-parole. Ce sont eux et la foule des anonymes qui sont invités à déposer un mot sur les registres installés au siège de la Fondation Emmaüs à Paris, l'hommage des Français à celui qu'ils désignaient régulièrement comme leur personnalité préférée. Les déclarations politiques sont évidemment nombreuses et unanimes. Jacques Chirac estime que la France perd une immense figure, une conscience, une incarnation de la bonté. L'ancien chef de l'État, Valéry Giscard d'Estaing, demande que soient organisées des obsèques nationales. L'ancien Premier ministre Laurent Fabius, que l'abbé Pierre soit enterré au Panthéon, dans ce monument qui abrite le tombeau des grandes personnalités. À droite comme à gauche, dans le milieu associatif comme dans les rangs de l'Église, on salue un homme qui a réveillé les consciences, une force d'indignation capable de faire bouger les cœurs, comme le résume le Premier ministre Dominique de Villepin. Emmaüs et la Fondation Abbé Pierre continueront d'agir en son nom, puisque malheureusement la précarité et le mal logement restent préoccupants. Emmaüs qui le dit d'ailleurs très clairement, le véritable hommage c'est de continuer. Si l'abbé Pierre est entré dans l'histoire en 1954, il n'en sort pas en 2007. Paris, Antoine Pasquier, Radio Vatican.
Le combat mené par l'abbé Pierre depuis 1954 pour offrir un toit à chacun est encore loin d'être terminé. À quelques jours de la publication de son rapport annuel sur les mal logés et en plein débat sur le logement en France, la Fondation Abbé Pierre regrette la disparition de son fondateur et s'apprête à poursuivre son action sans lui. Le témoignage de Gérard Gantier, vice-président de la Fondation Abbé Pierre, créée en 1987.
Son premier combat public, c'est 1949 et c'est là qu'il porte déjà son message en faveur du logement des défavorisés puisqu'il crée la première communauté de compagnons, les Chiffonniers d'Emmaüs. Qu'est-ce que c'était ? C'était un lieu d'accueil qui était dans une maison qu'il occupait lui-même dans la banlieue immédiate parisienne et où il a accueilli là, des hommes cabossés par la vie, très, très défavorisés. Au cours des années, nous avons commencé par créer des lieux d'accueil de jour où les personnes en difficulté trouvent non seulement le matin un café chaud et un croissant ou un petit pain, mais également tous les services d'hygiène, douche. Ce sont des lieux d'accueil de service, mais également d'écoute et d'accompagnement.
Et est-ce que vous pensez que ça tenait à sa personnalité ou est-ce que n'importe qui aurait pu le faire ?
C'est lui qui l'a fait, c'était à faire. Est-ce que quelqu'un l'aurait fait aussi bien que lui ? Il n'a pas été le seul en France même. Mais on a eu la chance d'avoir un porteur fort, d'un message fort, un prophète.
Et avec ou sans l'abbé Pierre, ça sera pareil ?
L'abbé Pierre survivra à sa vie terrestre, mais d'abord le mouvement qu'il a créé, j'allais dire malgré lui, parce que ce n'était pas un organisateur né, va forcément continuer à vivre. Et puis le combat mené par la Fondation Abbé Pierre est tellement un combat concret. Sa disparition, que nous pleurons aujourd'hui, ne sera pas un frein à notre action, mais au contraire, ça va peut-être servir d'accélérateur.
C'était Gérard Gantier, vice-président de la Fondation Abbé Pierre, interrogé par Marie Duhamel. Voilà, nous refermons ici ce long chapitre consacré à l'abbé Pierre. L'abbé Pierre qui a disparu ce lundi matin à l'âge de 94 ans. En raison de cet événement, nous avons exceptionnellement suspendu la diffusion de notre rubrique du lundi, les clés de Saint-Pierre, mais vous la retrouverez bien sûr la semaine prochaine.
Les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez.
Au Vatican, Benoît XVI a parlé d'œcuménisme ce lundi matin. Le pape recevait le premier ambassadeur de la République du Monténégro près le Saint-Siège. Les rapports diplomatiques entre les deux États n'ont été noués que le 6 décembre dernier. Benoît XVI a souhaité que cette petite république continue d'être un lieu privilégié pour le dialogue œcuménique, notamment entre catholiques et orthodoxes. Il a par ailleurs souhaité que le Monténégro offre sa contribution à la construction de l'Europe. Des déclarations sur l'œcuménisme qui viennent à point nommé en cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Depuis le 18 janvier jusqu'au 25, nous vous proposons sur Radio Vatican de découvrir, pour mieux les connaître et les comprendre, d'autres confessions chrétiennes. Aujourd'hui, le père Michel Malèvre nous parle des protestants évangéliques. Le père Michel Malèvre est dominicain et directeur du Conseil pour l'unité des chrétiens. Et depuis longtemps, il travaille avec des évangéliques.
Les évangéliques sont des protestants radicaux. Il y a quatre caractéristiques communes à la majorité des évangéliques. La première caractéristique, c'est la référence à la Bible. Et c'est en ce sens qu'ils sont fortement protestants. La deuxième caractéristique, c'est l'importance de la conversion. Quelqu'un qui a conscience de l'irruption, à un moment donné, dans sa vie de Jésus-Christ, d'un avant et d'un après et que être chrétien, c'est une adhésion personnelle à Jésus-Christ, que l'on devient chrétien, qu'on ne naît pas chrétien. La troisième caractéristique, c'est une vision assez pessimiste de l'homme qui les conduit à insister fortement sur la mort du Christ sur la croix. Et la quatrième caractéristique, eh bien, c'est un dynamisme missionnaire très fort qui peut être très lié à la conviction qu'il faut annoncer Jésus-Christ pour que tous les hommes puissent être sauvés et échapper à la colère de Dieu. Alors par rapport aux catholiques, on pourrait dire qu'il y a trois différences marquantes. La première, c'est une vision beaucoup plus pessimiste de l'homme, là où le catholique pensera qu'il y a une certaine coopération de l'homme sous la mouvance première de la grâce, mais possible, l'évangélique insiste toujours sur la corruption profonde de l'être humain et l'absolu de la grâce de Dieu. La deuxième caractéristique, c'est une conception de l'Église assez différente. Pour l'évangélique, l'Église, c'est d'abord fondamentalement la communauté locale, avec une très grande méfiance vis-à-vis de tout ce qui serait une conception visible de l'Église universelle et d'une unité des chrétiens par l'unité des églises. La troisième différence, c'est une conception des sacrements qui est plutôt réduite à être des signes par lesquels quelqu'un qui a fait l'expérience de Dieu dans sa vie répond au précepte de Jésus de se faire baptiser, de partager le pain et le vin, et donc une conception des sacrements qui sont plus des attestations que l'on est en communion avec Dieu qui est intervenu spirituellement dans la vie et certainement pas des signes matériels efficaces de la grâce de Dieu et de l'entrée de Dieu dans notre vie.
Voilà, le père Michel Malèvre revenait au micro d'Isabelle Pillot sur la définition des protestants évangéliques et ce, à l'occasion de la semaine pour l'unité des chrétiens. Direction l'Afrique, enfin, pour ce 7e forum social mondial qui bat son plein à Nairobi, capitale du Kenya. Jusqu'à vendredi, des milliers d'acteurs de la société civile, laïque ou religieux, échangent sur les initiatives à mettre en place pour un meilleur équilibre entre les pays du Nord et ceux du Sud. Thème retenu cette année, les luttes populaires, les alternatives des peuples. Gérard Renoir est producteur de lait, de céréales et viandes bovines en Meurthe-et-Moselle. Il est également syndicaliste agricole et président de l'ONG Agriculteurs Français et Développement International. Il nous livre son analyse sur les problèmes de l'agriculture en Afrique et en particulier sur le manque de résultats de la révolution verte promue par les Nations Unies dans les années 60. Écoutons-le.
L'Afrique, c'est compliqué. C'est déjà terriblement compliqué au niveau du climat. Beaucoup d'hectares, mais pas beaucoup de terres fertiles. Des gros problèmes d'accès à l'eau, à l'irrigation, un formidable problème de choix politique, de gouvernance, avec une faible alphabétisation, etc. Donc, toutes des choses qui sont en train de changer. Mais le premier investissement qui conditionne le développement, c'est quand même l'investissement sur les hommes et les femmes d'un pays. Ce que la plupart des pays émergents ont fait, c'est quand même d'abord de prioriser la formation de leurs ressortissants. Donc là, il y a un vrai effort encore à faire en Afrique. Il n'y a pas eu que de la lucidité dans la manière dont les grands bailleurs de fonds sont intervenus en Afrique. Et du coup, l'Afrique en paye les pots cassés, quoi. Il faut un peu plus de progressivité dans les politiques. C'est-à-dire, ce qu'on a fait en un siècle dans nos pays dits développés, on a demandé à des Africains qui étaient moins bien formés de le faire en 10 ans. C'est pas sérieux. On peut pas passer de l'agriculture de cueillette à l'agriculture agro-industrielle. Il faut déjà passer par une agriculture familiale qui nourrisse la famille, qui progressivement se met en capacité de nourrir les villes, parce qu'on a un problème d'urbanisation dans le monde entier, y compris en Afrique.
Le fait que des organisations de la société civile ainsi que des gouvernements se mobilisent tous ensemble dans un pays d'Afrique pour la première fois, est-ce que ça, pour vous, c'est quelque chose d'important?
Oui, moi, je pense que ça traduit le fait qu'aujourd'hui, l'Afrique commence à exister politiquement en tant que continent qui revendique d'exister sur la scène internationale. Donc aujourd'hui, cette prise de conscience africaine par les Africains qu'ils ont un rôle important à jouer en unissant leurs forces, en essayant de définir ensemble des politiques propres à l'Afrique, etc. Moi, je pense que c'est très important. À l'OMC, la voix des pays en développement aujourd'hui est écoutée. Il y a seulement 5 ans, on n'entendait pas. Voilà, ça bouge, quoi. Ça bouge et ça continuera de bouger si on s'intéresse aux hommes et pas seulement aux minerais et des choses comme ça. Voilà, en Afrique, il y a deux atouts. Il y a les populations et il y a les richesses naturelles. Bon, si les pays riches ne convoitent pas les richesses naturelles et s'ils s'intéressent aux hommes qui vivent là-bas, on devrait y arriver.
Voilà, c'était Gérard Renoir, président de l'ONG Agriculteurs Français et Développement International. Il était interrogé par Marie Duhamel. Nous arrivons à la fin de ce magazine. Pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site internet de Radio Vatican. Je vous rappelle l'adresse www.radiovaticana.org. Et sinon, je vous retrouve demain à la même heure.